bonjour. Je consacre aujourd'hui une deuxième émission à ma chère voisine, avec qui j'ai eu, vous le savez, une altercation. Je rappelle que celle-ci a réussi, en deux minutes, à me dire qu'elle était communiste, qu'elle détestait Israël et qu'elle était fonctionnaire européen. En particulier, elle a insulté Israël en parlant de pays voyou, illégal. Ses propos m'obligeaient à lui répondre et m'ont inspiré deux émissions. La première, vous l'avez écoutée mercredi dernier, où je démontrais un communisme aveugle et criminel. Voici un deuxième chapitre sur sa haine d'Israël que je qualifie d'antisémitisme moderne. L'antisémitisme est une maladie de l'ignorance et de la haine. Elle est due souvent à un manque d'éducation, à la méconnaissance de l'autre, à la méconnaissance des Juifs. Pour parler de ce fléau, j'ai voulu ainsi inviter deux personnes qui luttent tous les jours contre l'ignorance. J'ai invité Madame Rachel Marx, principale du Collège Vauban, et Madame Kate, professeure d'histoire géo au Collège Vauban. Bonjour mesdames.
Bonjour.
Bonjour.
Merci sincèrement d'avoir accepté mon invitation et de nous accueillir dans votre établissement. Nous sommes au Collège Vauban, donc de Strasbourg, pour une première émission que nous diffusions sur le terrain et non pas en studio. Votre présence, je pense, symbolise l'espoir que la société peut être fraternelle et que les communautés éducatives sont des terrains de la tolérance et du savoir. Cette émission, qui suis-je, a des rituels, mesdames. Les invités commencent d'abord à se présenter en prononçant le titre de l'émission « Qui suis-je ?». Et un autre rituel important pour moi, même s'il est souvent mal compris, c'est que je tutoie mes invités, non pas par manque de respect, évidemment, mais pour créer une proximité. Et rappeler que le vouvoiement n'existe pas en hébreu et que le tutoiement n'existe pas en anglais. Enfin, je vous demanderai de conclure l'émission en adressant, si vous le souhaitez, un doigt d'honneur à quelqu'un de votre choix, un organisme, une institution, que sais-je. Madame Marx, je vous propose d'ouvrir le bal. Pouvez-vous prononcer le titre de l'émission et vous présenter ?
Alors, pour qui suis-je ? Je suis Rachel Marx, principale du Collège international Vauban à Strasbourg. Donc, c'est un établissement qui est situé boulevard d'Anvers, donc au cœur de Strasbourg, non loin des institutions européennes. Nous avons à la fois des sections internationales, à la fois des enfants, nous accueillons des enfants de trois cités voisines,
oui.
Et nous ouvrons à la rentrée 2021 le nouveau lycée franco-allemand de Strasbourg.
Ah oui, qui est un événement à Strasbourg, hein, il me semble.
C'est un événement très attendu et beaucoup plus que je ne le pensais.
Super, merci. Madame Aude Kite, c'est à vous de vous présenter.
Qui suis-je ? Aude Kite, professeure d'histoire, géographie et d'éducation morale et civique au Collège Vauban.
Merci. Alors, avant de commencer mon billet d'humeur, vous travaillez donc dans un établissement qu'on peut qualifier de mixte, à la croisée de quartiers très très différents les uns des autres. Êtes-vous confrontée, mesdames, à des phénomènes de racisme, d'antisémitisme ? Y a-t-il des tensions communautaires ? Constatez-vous des confrontations identitaires ?
Bon, alors, le collège Vauban, effectivement, comme vous le disiez, accueille une population très mixte depuis seulement 5 ans, puisqu'il y a 5-6 ans, on accueillait principalement les enfants des cités voisines, et l'ouverture des sections internationales a ramené un public effectivement plus mixte, a ramené également le public d'enfants du quartier des 15, quartier des musiciens, voilà, qui est un public plutôt favorisé. Je peux dire que la mixité dans les classes et dans l'établissement se passe plutôt très bien. Nous sommes finalement pas surpris, parce qu'on peut dire qu'on se rend compte que les enfants n'ont pas de problème comme ça avec le racisme d'emblée, avec l'antisémitisme. Ce sont souvent des idées de grands qu'on leur met dans la tête, mais moins des idées d'enfants. Alors, je ne peux pas dire que nous n'avons eu aucun problème. Nous avons de temps en temps des insultes qui fusent ou voilà, des petites choses. Mais on peut dire que globalement, la mixité, ça fonctionne plutôt très, très bien à l'école.
D'accord. Merci. Les démons qui menacent notre pacte républicain sont nombreux et s'appellent intégrisme, islamo-gauchisme, extrême droite, extrême gauche, racisme et donc antisémitisme. Ces démons commencent à prendre beaucoup d'importance en France, en tout cas dans le monde des adultes. L'extrême gauche et l'extrême droite, ensemble, pèsent de 30 à 50% aujourd'hui dans les élections françaises, et en particulier à Bordeaux, Lyon et Strasbourg. Et ils sont devenus majoritaires parfois. Ils ont pris le pouvoir. Regardez ce qui se passe à Strasbourg et les différents dérapages et fautes politiques de la municipalité. C'est parce que la bataille devient rude qu'il ne faut rien laisser passer. Donc, Madame la voisine, si vos propos violents, agressifs ne portaient que sur Israël, pas sur l'antisémitisme à proprement parler, je veux prétendre haut et fort ici que vous êtes, à mon sens, antisémite. La nouvelle définition de l'antisémitisme adoptée par l'Alliance internationale pour la mémoire de la Shoah, l'IHRA, doit permettre de mieux lutter contre ceux qui cachent derrière le rejet d'Israël la négation même de l'existence d'Israël. En affirmant, Madame la voisine, qu'Israël est illégal, cette fameuse définition vous rend, à mon sens, coupable d'antisémitisme. Vous niez l'existence d'Israël, vous êtes antisémite. Je me tourne vers toi, Aude. Tu es professeur d'histoire géo. As-tu déjà eu, au sein de tes classes, des difficultés à enseigner certaines parties du programme, toi ou tes collègues ?
Alors moi, personnellement, je ne me suis jamais mis de frein à l'enseignement d'aucune partie du programme scolaire, sachant qu'on parle des religions, on parle du racisme à peu près chaque année. Il y a toujours un moment donné où on arrive à en parler. Après, je sais très bien, en discutant avec des collègues, qu'il y en a qui évitent, qui tournent autour ou qui l'abordent de manière rapide ou en tout cas extrêmement simplifiée pour éviter d'entrer dans des conflits. Ça, on sait que ça existe, on peut pas le cacher.
Tu n'as pas l'impression que c'est un abandon ? Un abandon pour la République, puisque aujourd'hui, on n'aborde pas certains sujets, mais demain, on en abordera.
C'est dommage, hein, et on peut le regretter. Et souvent, moi j'en ai déjà discuté avec des gens en essayant de leur dire que, au contraire, c'était carrément notre rôle, en tout cas c'est ce que moi je pense, d'en parler et d'entrer dans le vif du sujet. Après, il faut savoir que quand vous êtes devant 30 élèves et que vous avez quelqu'un qui vous répond et qui vous déstabilise, c'est pas forcément évident de répondre et de pas être contre-productif ensuite, finalement, en ayant une réponse maladroite qui pourrait, au contraire, attiser le débat. Et faut savoir qu'une heure de cours, ça dure une heure. Hein, et qu'ensuite, si on n'a pas terminé le débat, l'élève peut repartir avec des choses bancales. Et c'est ça aussi qui n'est pas évident.
Bien sûr. Les programmes sont-ils, d'après toi, suffisamment tournés justement vers les questions de racisme, d'antisémitisme ? D'Israël, est-ce que ce sont des sujets pour lesquels les dotations horaires sont suffisantes ou c'est juste un ou deux chapitres dans un énorme, immense programme et qu'on n'est pas à la hauteur de l'évolution de ces problématiques ?
À mon avis, elles sont présentes vraiment partout, mais je ne parlerai pas juste de l'antisémitisme ou du racisme, c'est de manière générale la question de l'autre qui est vraiment partout. Et pour moi, c'est vraiment ça qui est important dans l'éducation. Ce n'est pas tellement de cibler un des autres qui est visé ou une des minorités qui est visée, c'est vraiment de parler de manière générale du vivre ensemble et d'être capable de reconnaître dans l'autre, non pas un étranger dangereux qui ferait peur ou dont on se méfierait, mais plutôt quelqu'un qui peut nous apporter des choses. Et,
Alors, Madame la voisine, je continue mon billet d'humeur. Pour lutter contre votre antisémitisme, il faut donc faire, d'après moi, de la pédagogie. Et je me dois donc de vous rappeler des fondamentaux de l'État d'Israël. Vous dites qu'Israël n'a pas d'existence légale. Cette accusation est horrible et elle fait fi de l'histoire la plus noire de l'histoire moderne, la Shoah. Israël est né en réponse à cet infini drame du peuple juif au lendemain de la dernière guerre. Renier Israël, c'est renier aussi cette réponse. La frontière est faible entre ceux qui détestent les Juifs et ceux qui nient la Shoah elle-même. Le génocide, la Shoah, ont donné une justification juridique à la création d'Israël. Même les Palestiniens du Fatah d'Arafat ont reconnu Israël, et pas vous. Madame la voisine, vous êtes absolument aveugle. Vous traitez ensuite Israël d'État voyou, déjà condamné des dizaines de fois par les différentes instances judiciaires internationales. C'est vrai, vous avez raison. Mais je suis le premier à le déplorer. Il faut savoir que l'État d'Israël est géré comme s'il était attaqué chaque jour. La paix n'existe pas là-bas. Il est en état de guerre permanent. Les règles ne sont donc pas les mêmes en temps de guerre qu'en temps de paix. Nous, Français, confortablement installés dans la paix avec nos voisins, nous avons oublié ce que état de guerre voulait dire. Nos parents et nos grands-parents, eux, à mon avis, ne l'ont pas oublié. Donc, oui, il y a des bavures, et vous savez quoi ? Quand il y a une bavure en Israël, elles font l'objet de poursuites judiciaires. Tous les jours, les militaires sont condamnés quand ils ont dérapé. Dans quel pays de la région y a-t-il ces recours ? Ensuite, donnez-moi un État qui n'a pas été condamné par ses institutions internationales. La France, combien de fois l'a-t-elle été ? Et la Russie, la Chine, les États-Unis ? La raison d'État est toujours critiquable par nature, mais elle est indispensable. Et puis, quelles institutions internationales parle-t-on ? On parle de quoi ? De l'ONU, de l'UNESCO ? Regardez qui siège dans ces institutions. Ce sont malheureusement, que des dictatures. Ces instances sont corrompues et elles s'autogèrent entre elles. Je pense qu'il y a mieux pour dire le droit. Israël, à mon sens, n'a pas de leçons à recevoir et surtout pas d'une fonctionnaire européen communiste. Continuons juste encore quelques mots sur l'État voyou. À quoi mesure-t-on une démocratie ? On la mesure à ses contre-pouvoirs. Or, Israël est une démocratie moderne avec une justice, un parlement, des médias. C'est un des seuls pays qui envoie ses premiers ministres en prison par suite d'enquêtes journalistiques et judiciaires. Vous avez enfin sous-entendu, avec beaucoup de passion, que les Arabes étaient maltraités en Israël. Certaines municipalités d'extrême droite, en effet, bafouent leurs droits. C'est vrai, je l'ai vu moi-même. Mais l'immense majorité des Arabes israéliens ont accès à tous les mêmes droits que les Juifs, à la santé, à l'éducation, au sport, aux universités, à la retraite. Le plus incroyable, c'est que même les Arabes israéliens intégristes, islamistes, ont envoyé deux députés à la Knesset. Vous vous rendez compte, des intégristes musulmans, c'est comme si Tariq Ramadan était aujourd'hui devenu ministre en France. Donc, même en France, ce n'est pas possible. Vous parlez encore d'État voyou. Je dirais encore que des millions d'Israéliens sont de gauche et pour la paix, et de droite et pour la paix. Des millions sont des humanistes. Ils œuvrent tous les jours pour les Palestiniens. Et des milliers de Palestiniens sont soignés dans les hôpitaux israéliens. Des programmes d'échange très nombreux existent. Enfin, et ça me semble être le plus important, il me semble que vous mélangez la politique de Netanyahou avec l'identité d'Israël. Vous n'êtes même pas capable de différencier un régime politique conjoncturel très critiquable à l'identité du pays. Israël est, comme tous les pays du monde, traversé par des courants idéologiques. Netanyahou était extrémiste et il a beaucoup changé la société. Elle est devenue très inégalitaire, parfois raciste. Il faut le dire et ça ne me dérange pas de le dire. Mais les fondations d'Israël ont été définies par des idéologues de gauche. Les textes fondateurs, il n'y a pas de constitution, sont d'inspiration socialiste car les scrutins électoraux sont régis par la proportionnelle intégrale, rêve de tout régime, communiste. Quelle ironie. Pour terminer, Israël est une grande démocratie, la seule, l'unique dans cette région. 5 élections en 2 ans, combien en Égypte, combien en Jordanie, combien au Liban. Faisons une petite pause musicale avec une chanson d'amour. D'amour de la liberté que vous mettez en danger, Madame la voisine, avec votre idéologie. Écoutons cet hymne à l'amour de Georges Moustaki, Ma liberté.
Ma liberté, longtemps je t'ai gardée. comme une perle rare. La liberté, c'est toi qui m'as aidé à larguer les amarres. Pour aller n'importe où, pour aller jusqu'au bout des chemins de fortune, pour cueillir en rêvant une rose des vents sur un rayon de lune. Ma liberté devant tes volontés, mon âme était soumise. Ma liberté, je t'avais tout donné, ma dernière chemise. Et combien j'ai souffert pour pouvoir satisfaire tes moindres exigences. J'ai changé de pays, j'ai perdu mes amis pour gagner ta confiance. Ma liberté, tu as su désarmer toutes mes habitudes. Ma liberté, toi qui m'as fait aimer même la solitude. Toi qui m'as fait sourire quand je voyais finir une belle aventure. Toi qui m'as protégé quand j'allais me cacher pour soigner mes blessures. Ma liberté, pourtant je t'ai quitté une nuit de décembre. J'ai déserté les chemins écartés que nous suivions ensemble. Lorsque sans me méfier, les pieds et poings liés, je me suis laissé faire. Et je t'ai trahi pour une prison d'amour et sa belle geôlière.
Madame, Rachel, j'allais te vous voyez. Rachel, d'abord une question qui me vient à chaque fois que je croise un professionnel de l'éducation. Lorsque les tragiques événements de Charlie, de l'épicerie cachère, de Samuel Paty se sont déroulés, as-tu eu à gérer des comportements anti-républicains et antisémites lors des différents hommages ?
Alors, ici, à l'interne, dans l'établissement, non. Il est possible que dans les classes, et Madame Kate le dira, il y ait eu des réflexions ou des remarques. Je l'ai vécu il y a quelques années de manière plus violente, puisque j'étais chef d'établissement en cité, donc oui. À Haute-Pierre. Et là, effectivement, les minutes de silence ne pouvaient pas se faire. Ne pouvaient pas se faire. Elles étaient continuellement perturbées. C'était extrêmement compliqué. Ici, dans cet établissement, qui est un établissement de centre, on est beaucoup moins exposé à ce genre de choses. En même temps, les professeurs ont travaillé en classe, donc Madame Kate le dira, avec les élèves autour de ces problématiques, on consacrait du temps. Et je pense qu'il y a, dans de nombreuses familles, il y a un dialogue qui se fait, il y a un échange qui se fait, mais on n'en est pas au stade que j'ai connu, par exemple, en cité, où effectivement, les minutes de silence dans la cour étaient plutôt traumatisantes parce que c'était très, très compliqué de les faire. On a vécu également, quand on revient, pour rebondir sur le passage sur les programmes d'histoire-géographie, effectivement, alors bien sûr qu'en cité, là aussi, c'est plus compliqué pour les professeurs. Alors, c'est pas. Il y a de l'évitement, bien sûr, mais il y a de l'évitement parce qu'il y a une paix sociale qu'on doit maintenir en classe et que ça devient très, très compliqué pour eux de se confronter, un peu de se battre comme ça pour imposer quelque chose qui est de l'ordre de la vérité et qui n'est pas à contester, qui est incontestable. Mais c'est quand même difficile pour un professeur.
Tu as combien d'années d'expérience dans le monde éducatif ?
Alors, d'abord, j'ai été professeur de lettres et d'histoire-géographie.
D'accord.
Et depuis une trentaine d'années. Voilà, et en chef d'établissement, une douzaine d'années.
As-tu vu une forte évolution depuis 10 ans, depuis 20 ans, depuis 5 ans ? Une accélération, je dirais, des problématiques liées à la défense de notre modèle démocratique ? Au sein des établissements scolaires.
Alors, je ne l'ai pas vécu vraiment en tant que professeur, parce que, on était dans... Je pense que c'est un problème de territoire. Je pense que c'est un problème de territoire, un problème culturel, un problème d'éducation. Je ne l'ai pas vécu en tant que professeur, je l'ai vécu davantage en chef d'établissement.
D'accord.
Mais là, je disais de manière conjoncturelle, on était à Haute-Pierre, donc effectivement, c'était plus compliqué. On a même remis en cause des sorties au Struthof, qu'on ne pouvait plus faire.
Remis en cause.
Parce que les professeurs, on avait assez du comportement des élèves qui étaient problématiques sur place et des comportements souvent déviants. Et donc, on avait même arrêté ces sorties et qu'on a reprises. J'ai même accompagné des groupes pour pouvoir, en fait, parce qu'il fallait, voilà, c'est indispensable de le faire.
Ouais.
Et j'ai même accompagné des groupes de professeurs parce qu'on se disait qu'avec une autorité plus forte, un encadrement plus grand, on pouvait y arriver. Mais enfin, voilà, on n'a pas voulu abandonner, en tout cas.
D'accord. Vous avez toutes les deux peut-être un avis sur l'évolution de la société dans les 10 prochaines années et du rôle de l'école, qui est, à mon sens, un des derniers maillons institutionnels présents dans certains quartiers, en tout cas. Est-ce que vous êtes optimiste ou pessimiste sur la défense des valeurs et de la laïcité et au sein des établissements scolaires? Tu es professeur d'histoire géo, mais ce serait bien de faire un peu de prospective aussi.
Ouais, c'est ça. J'ai pas l'habitude. Je dis souvent à mes élèves que j'ai pas de boule de cristal. Moi, je suis très très optimiste de manière générale. Je suis très optimiste et surtout quand je discute avec mes élèves, je crois vraiment en eux pour que ils puissent à un moment donné changer les choses. Quand je les vois interagir entre eux, je trouve que c'est beau à voir parce que surtout au collège, on a énormément de mixité. Ils vivent quand même très bien ensemble. Après, ça ne veut pas dire qu'on est non plus dans le pays des bisounours. Mais comme l'avait dit Madame Marc, c'est plutôt ça vient des parents. Souvent, ça vient de la maison, des grands, de la télévision, des réseaux sociaux. Et donc, à l'école, je pense vraiment, et c'est là pour ça que je suis optimiste. Enfin, l'école a son rôle à jouer vraiment là-dedans. C'est à nous de les aider à penser et à croire par eux-mêmes.
Pensez-vous que... il me semble que l'éducationnel a différentes missions et par exemple de promouvoir des coopérations renforcées avec des partenaires associatifs extérieurs aux établissements scolaires justement pour organiser des sorties, etc. Vous ne pensez pas que là, il doit y avoir vraiment un investissement beaucoup plus important de fait, des moyens financiers pour justement permettre... De vous soutenir, vous, professeur, en faisant intervenir beaucoup plus des personnes extérieures pour renforcer votre travail. Est-ce qu'on ne pensait pas que là, on passe à côté de certaines choses?
Alors, sur les intervenants extérieurs, sûrement, ce serait génial. Enfin, nous, on est toujours contents quand on fait venir des gens de l'extérieur parce que, justement, ce n'est pas le professeur uniquement qui entre en contact avec les élèves et qu'il y a un d'autres points de vue ou en tout cas, d'autres personnes qui peuvent entrer en communication avec eux sur ces sujets-là. Après, je pense surtout aussi que c'est au niveau de la formation des professeurs que ça devrait probablement encore être renforcé et dès la formation initiale. Moi, en tant que professeure d'histoire-géographie, j'ai l'impression d'avoir été formée à ça. À Strasbourg aussi, parce qu'on a vraiment de très bons formateurs. Mais je ne sais pas si c'est pareil dans les autres académies. Et par contre, les professeurs d'autres matières, clairement, considèrent souvent que ces questions-là, finalement, de laïcité, évidemment, elles les concernent parce qu'ils sont dans un établissement laïque et qu'ils la font respecter. Mais ils ne sont pas forcément prêts à agir ou à répondre à des commentaires d'élèves. Et là, je pense vraiment que cette question de la laïcité, elle devrait impliquer vraiment tout le monde, tous les personnels.
Je me tourne vers toi, Rachel. Tu es principale de ce collège. Si tu étais à la place du ministre de l'Éducation nationale, t'en as envie peut-être, d'ailleurs?
Mais alors, carrément pas.
Pas du tout?
Non.
Ah, d'accord.
Carrément pas. Non, je suis bien à ma place. Et puis, je pense qu'être ministre, c'est s'exposer à énormément de critiques. Enfin, c'est surtout, je pense, des critiques. Alors que là, finalement, j'ai l'impression que dans ce qu'on fait ensemble, d'ailleurs avec les professeurs et qu'on fait dans tout ce qu'on peut proposer, on est un peu critiqué, mais on est souvent bien suivi et bien soutenu. Hein.
Alors je te pose quand même la question. Oui. Admettons que là, tu viens d'être nommé ministre de l'Éducation nationale par je ne sais pas quel président. Quelles seraient les mesures que tu prendrais pour mieux combattre le racisme et l'antisémitisme au sein des établissements scolaires?
Je pense que il faut agir extrêmement tôt. Je pense que l'école primaire est vraiment le vivier sur lequel il faudrait agir. et qu'en fait, on sous-estime souvent l'école primaire où on est focalisé sur les apprentissages de la lecture, d'écriture, etc. C'est important. Mais je pense que c'est le moment où il faut apprendre aux élèves à penser, à se questionner sur l'autre, la rencontre. Surtout que les enfants n'ont vraiment pas d'a priori, pas de préjugés, autres que les préjugés qu'on leur met en tête. Mmh. Donc vraiment, je pense que c'est le moment de leur apprendre à s'ouvrir aux autres. Et alors, par les intervenants extérieurs, par des rencontres avec des enfants d'autres religions, par les visites de lieux de culte, etc. Mais je pense qu'il faut agir dès le primaire. Mmh.
On approche de la fin de l'émission. Je vais vous demander à chacune... on est à la veille des vacances scolaires. Donc... ça va donner du temps pour les gens de lire. Hein. On parle d'éducation, je pense que l'éducation, c'est avant tout lire, prendre du temps pour lire. Justement, je pense que les gens lisent de moins en moins, ce qui est peut-être une des causes, d'ailleurs, de la montée de certains fléaux. Donc, je vais vous demander de recommander à nos auditrices et auditeurs, chacune, un livre qui peut être utile pour lutter contre le racisme, l'antisémitisme. Rachel.
Oui, alors donc, nous, ce qu'on fait déjà, c'est qu'on fait une remise de prix et on offre des livres aux enfants, là, pour partir en vacances. Donc, ça, c'est déjà une chose. Et ensuite, là, en ce moment, je viens de terminer un livre qui s'appelle « Kaddish pour les miens » d'Armand Glicksberg. Voilà, Glicksberg, et ses chroniques d'un demi-siècle d'antisémitisme. Alors, c'est extrêmement intéressant parce que... C'est un homme qui raconte en fait l'histoire de sa famille pendant qu'il était enfant, adolescent, etc. Et je pense que ça peut parler même à des adolescents qui doivent comprendre comment, alors qu'on a été jeune, qu'on a eu 10 ans, 11 ans, 12 ans, on s'est retrouvé dans une situation absolument dramatique, mmh. à avoir été obligé d'abandonner sa famille. Et puis, on voit le parcours à travers cette France, justement, cette France de la collaboration, etc. Cette France qui a été extrêmement cruelle, même si elle a été aidante par moments, mais très cruelle, pour ce jeune adolescent. Je pense que ça peut parler à des adolescents.
Aude.
Alors moi je suis justement en train de lire alors c'est pas un livre, c'est le dernier numéro alors il me semble que ça s'appelle Saison d'Alsace des DNA, qui est consacré au Struthof et qui a été écrit par de nombreux historiens spécialistes de la question et les membres du CERD, donc voilà, c'est très bien documenté et très agréable à lire, donc je le conseille à mes futurs troisièmes pour les préparer à la rentrée.
Génial, alors je dirais que on indiquera sur le site de Radio Judaïka les références exactes du livre et des Saisons d'Alsace. C'est, je pense, de super bons conseils de lecture. Pour terminer cette émission, c'est le fameux rituel qui parfois dérange un peu mes invités. Je vais vous demander d'adresser à chacune un doigt d'honneur, un coup de colère. Contre une personne, une institution, voilà. Honneur à Aude, peut-être.
Comme ça, je vais peut-être vous décevoir, moi, mais en fait, je dis à mes élèves de pas faire de doigt d'honneur, donc du coup, je vais être très polie et je suis pas tellement colérique, donc voilà.
Pas de souci, je respecte tout à fait ta réponse.
Alors moi, tout le monde sait ici que je ne suis pas du tout colérique, mais néanmoins, il y a une chose qui me met en colère en général, ce sont les gens qui interviennent sur les réseaux sociaux. De manière anonyme. Et ça, je trouve ça absolument insupportable. Voilà, donc un doigt d'honneur pour les anonymes qui insultent les autres, mais sans, en fait, donner leur nom.
Voilà, sans assumer.
Ouais, sans assumer. Ouais. Et ça, je trouve ça...
En fait... Je mets un like anonyme.
Voilà, je trouve ça absolument insupportable.
Oui, en fait, c'est pour moi une des principales causes de la détérioration des relations sociales dans notre société moderne. Ouais. C'est vraiment parce qu'en fait, on a ouvert une boîte de Pandore.
Absolument.
Qui permet à tout le monde de sortir ses haines. Et c'est en train de détruire en fait beaucoup de choses, beaucoup de choses. Et d'autant plus qu'on est aujourd'hui dans un système où lorsqu'on publie quelque chose, on devient un média.
C'est ça,
voilà. Et donc on a une responsabilité qui est vraiment très importante, les gens ne s'en rendent pas compte et c'est très grave. On est bien aujourd'hui on est entouré de classes où il y a un brevet des collèges qui
Absolument,
se déroule.
Oui, c'est aujourd'hui.
Donc aujourd'hui, dans les salles autour de nous, les élèves sont en train de plancher sur les épreuves du brevet des collèges. Donc je me permets de dédier ces deux émissions à ces élèves-là qui sont en train de suer et qui vont être en vacances donc aujourd'hui à midi
Non, alors les vacances scolaires, c'est le 6 juillet. Donc nous le rappelons depuis quelques jours aux parents qui appellent et qui veulent savoir si c'était les vacances aujourd'hui. Non, ce n'est pas les vacances. L'école ouvre et jusqu'au 6 juillet. Nous sommes là pour les accueillir jusqu'au bout.
D'accord,
voilà.
Super.
Je sais que je déçois beaucoup de monde, mais
c'est comme ça. Merci mesdames, merci beaucoup et à la semaine prochaine.